France Musique. Les grands entretiens, Thierry-Paul Benizot, France Musique.
Je suis Kenneth Weiss, je suis né le 4 janvier 1963 à New York City et je suis claveciniste.
Kenneth, merci beaucoup de nous recevoir chez vous, dans ce quartier du 5e arrondissement, dans un des derniers refuges du Paris que nous aimons, très historique. Vous me disiez tout à l'heure que lorsque vous sortiez de chez vous, vous aperceviez un lieu particulier.
Oui, je ne l'ai pas vu quand je suis déménagé, vraiment, quand j'ai vu l'appartement pour la première fois. C'est un quartier qui est magnifique tout près de la Seine. Mais en sortant de chez moi, je regarde à gauche et je vois l'église de tous les dynasties Couperin, notamment François Couperin, Saint-Gervais. Et c'est une vue qui est très inspirant. Je pense dans le quartier, dans le temps, il y avait énormément de clavecins, énormément de clavecinistes.
Vous êtes claveciniste?
Oui.
Vous êtes aussi organiste?
Je joue aussi de l'orgue. J'étais pianiste, donc je touche un petit peu à tous les claviers, mais en instrument soliste, vraiment, pour m'exprimer, c'est à travers le clavecin.
Vous êtes américain, on l'a compris, et vous êtes venu vivre en France. Comment?
Je suis venu en Europe pour la première fois juste après mes études, quand j'ai eu mon premier diplôme, donc en clavecin, j'avais 22 ans. Je suis deuxième génération américain, mes grands-parents paternels étaient hongrois et juifs. Avant la guerre, il y avait la deuxième guerre. Une partie des familles est allée aux États-Unis et une partie sont venues en France. Donc, j'avais ce lien avec la France et actuellement, j'ai plus de familles, des cousins, ici en France. J'avais ma grand-tante et puis beaucoup de générations de cousins ici en France. Donc, après mes études aux Pays-Bas, avant de retourner aux États-Unis pour une vie incertaine professionnelle, je voulais rester en Europe et du coup je suis venu à Paris et j'ai tombé amoureux de la France et il y avait ce lien aussi de famille qui m'a fait sentir très bien tout de suite en France.
Votre français est excellent. Vous l'avez appris à l'école ou...
Non, je ne l'ai pas appris à l'école. Au lycée, avec mes camarades, on devait prendre une langue, une autre langue étrangère. C'était le choix entre le français et l'espagnol. Et ce qui courait le bruit, c'était que le français était très, très, très difficile. L'espagnol était beaucoup plus facile. Donc, j'ai pris l'espagnol, mais après... une grande majorité dont les élèves dans ma classe d'espagnol étaient de Puerto Rico. Comme il y avait beaucoup de Puerto Ricains, donc il avait un grand avantage sur moi. J'ai appris le français ici en France.
Et vous, vous avez suivi vos études primaires dans une école privée, une école publique?
Non, publique. Hein, tout était au public. Il y avait les écoles privées, mais c'était jamais une question. Je pense de le mettre à cette époque et pour les questions d'argent, ça c'était quelque chose qui était vraiment pour un autre niveau de richesse, mm-hmm. pour envoyer les élèves en école privée. Donc j'étais dans l'école publique, mais à ce moment, mon père, il était le premier de sa famille d'aller à l'université et lui, il a sorti de toutes les écoles publiques. Donc pour eux, c'était le bon voie.
Mais votre famille habitait dans le Bronx, au nord du Bronx, à Riverdale.
Je suis grandi dans le Bronx, oui.
Riverdale, c'est assez beau.
C'est très très beau, c'est sur la Hudson, la rivière qui traverse.
Au-dessus de White Plains, c'est ça?
Il y a White Plains qui est pas très loin.
Ouais.
Et aussi, c'est connu parce qu'il y avait Toscanini quand il a vécu à Riverdale. Il y a un immense espèce de château qui s'appelle Wave Hill, qui est maintenant un parc, qui est magnifique. Et c'est là il était avec sa famille pendant qu'il travaillait à New York. Mais c'était un quartier qui était, bon, plutôt calme, plutôt mixte de religions. Et j'ai vécu là-bas sans trop bouger jusqu'au... Je suis allé au lycée vers 13 ans.
Kenneth Wise, vos parents donc étaient des juifs pratiquants
Non, on n'était pas pratiquants dans la famille, ni les grands-parents, mais il y avait une identification culturelle où il y avait certaines traditions qui étaient...
On célébrait les fêtes, par exemple.
Il y avait des fêtes, et puis...
Est-ce que vos parents parlaient yiddish à la maison?
Oh, pas du tout,
pas du
non.
Tout.
Il y avait... En fait, à ce moment, je pense beaucoup de gens avec le même âge que j'ai maintenant avaient un petit peu la même expérience. En tout cas, pour les premières générations, donc de mon père, des immigrés, c'était de oublier l'Europe, et pour les Juifs en particulier, parce que ça, ils ont plutôt pas, comment dire, soutenu vraiment leur peuple, hein, où ils pouvaient pas. Donc, en tout cas, la chose était d'oublier. Et c'était d'essayer de intégrer leurs enfants le plus vite dans la société. Donc, ils ont souvent donné les noms plus anglo, déjà, de pas avoir les prénoms qu'ils identifiaient autrement. Et c'était surtout de pas parler, de ne pas apprendre aux jeunes leur langue. Donc, ma tante, elle comprend, elle était le premier né, non? Donc elle comprend le hongrois. Mais mon père, il voulait jamais qu'il apprenne. Donc mes grands-parents, même avec des accents en anglais extrêmement prononcés, ils ont jamais parlé hongrois devant lui. Et maintenant, les choses sont changées parce que les générations maintenant, ça c'est de vraiment garder les racines avec fierté et de donner les noms aux enfants qui l'identifie d'être venu d'une autre culture. Donc ça a changé un petit peu dans le temps. Thank you.
Vous appartenez à un milieu cultivé. Que faisaient vos parents?
Alors, mon père, il était avocat. Comme je disais, il était le premier de la sortie, mais mon grand-père, il était boucher. Et en Hongrie, avant, il était plutôt boucher et dans le vignoble. Ça, c'était les professions. Bon, donc, mon père, il allait à City College à New York et puis allait à Harvard Law School. Et donc, lui, il est devenu avocat et juge à New York. Et ma mère était, elle allait à Columbia University. Et elle a eu son doctorat dans gérontologie. Elle est professeure. Elle était professeure à Columbia University aussi. Donc, les deux étaient intellects, les académiques, et ils avaient ça en commun.
Et vous avez une sœur aussi. Vous avez une sœur aînée.
J'ai une sœur plus âgée.
Plus âgée, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle fait, elle?
Elle a fait beaucoup de choses différentes et artistiques. Elle chantait un peu. Là, maintenant, elle travaille dans la céramique. Elle a fondé une famille. Et elle habite en Californie, très loin de New York. C'était un autre mode de vie.
Quels étaient les loisirs chez vous dans un milieu intellectuel? Qu'est-ce qu'on faisait? On écoutait beaucoup de musique, par exemple?
Il y avait une partie de musique. Alors moi, j'ai commencé parce que ma grand-mère, le côté maternel de ma famille, est venue de Boston, dans le Massachusetts. Ma grand-mère, elle était pianiste. Et quand elle a déménagé, je devais avoir vers 5 ans, j'ai hérité son demi-queue sur le piano. Je dis moi, c'était l'appartement, c'était mes parents qui ont pris. Mais c'était moi qui s'intéressais, donc je commençais à jouer pendant, j'imagine, quelques années. Je me rappelle pas très bien, mais à ce moment, ils ont dit on va lui trouver un professeur. Donc j'ai commencé comme ça. Donc il y avait un petit peu de musique, mais mes deux parents jouaient pas la musique. On écoutait, je me rappelle, le grand événement avec les quatre, puisque mes parents ont travaillé beaucoup. On était pas avec beaucoup de supervision, je dois dire. Mais les choses en commun, en famille, c'était d'écouter l'opéra les samedis. À l'époque, il y avait le grand compagnie pétrolière Texaco qui était...
Sponsor de
la Metropolitan Opera, où il y avait chaque... samedi, un opéra différent en direct.
Et donc brought ça, c'était
brought to you by Texaco.
C'est ça.
Et ça, c'était avec les annonceurs qui, et ça, c'était les choses, je dois dire, qui étaient peut-être le plus fréquent en famille.
It's Saturday afternoon all over America. And millions of people are sitting back and enjoying something that's become a very special part of their lives. Grand Opera. Broadcast live from the Metropolitan Opera House in New York, home of America's only national opera company. For 38 years, Texaco has been bringing this glorious music, performed by the world's great opera stars, to local radio stations from Bath, Maine to Laramie, Wyoming.
Kenneth Wise, à part l'opéra, qu'est-ce que vous écoutiez, vous, personnellement?
Je dois dire, je pense que j'étais vraiment comme un teenager, un adolescent qui était plutôt de son temps. Moi, en fait, j'écoutais beaucoup déjà un peu la musique de ma grand-sœur, parce que c'est elle qui avait tous les albums, donc j'écoutais là. Mais c'était beaucoup de musique de folk, beaucoup de musique acoustique de folk. Plusieurs choses, mais je dois dire ça, c'était peut-être la musique, jeune adolescent, que j'écoutais le plus, dont Joni Mitchell, James Taylor.
Carole King.
Il y avait Carole King, ça c'était un peu la génération de ma sœur, mais oui. Il y avait aussi, j'écoutais, pour le texte, ça c'était extrêmement riche. Et quand je suis venu en France et j'ai vu les gens qui écoutaient comme Barbara, c'est avant que j'ai pu vraiment suivre ce texte très très vite et très compact, avec beaucoup de sentiments, c'est un petit peu semblable quand il y a la musique, mais c'est le texte qui philosophie, façon de voir les choses qui sont gravées
sur les
pensées des gens. Donc c'est un petit peu comme ça, mais Joni Mitchell est un immense artiste. Aussi, il y avait d'autres courants qui ont passé, il y avait du funk qui était là, en fait. Donc, fin des années 70, donc Parliament, Earth, Wind and Fire, ça a coûté beaucoup. Et aussi dans The Bronx, dans les fins des années 70, c'était le début de rap and hip-hop. Donc, ça aussi, c'était pas exactement dans mes mêmes rues, c'était pas loin. Et quand je suis allé au lycée à Manhattan, ça c'était tous les sons de Manhattan et de la ville de New York. C'était Grandmaster Flash et ça c'était quelque chose qui était actuel et intéressant. Broken glass everywhere, people pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise, got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.
Les grands entretiens de Kenneth Weiss, France Musique.
Et alors vous allez donc commencer l'étude du piano sérieusement à quel âge ? Avec un professeur, je veux dire.
Alors j'ai commencé peut-être à 6 ans, et ça c'était avec le professeur du quartier qui allait un petit peu de maison à maison, Mrs. Sokolow. Je me rappelle bien d'elle, elle a donné des petites étoiles à la fin des cours, selon ce qu'on a fait dans la semaine. C'était pas extrêmement bon, mes parents m'ont jamais poussé à travailler. C'est quelque chose, c'était le propre monde à moi, parce que j'étais la seule personne dans la famille qui le faisait. J'ai toujours adoré jouer, mais je pense que c'était pas un professeur qui était extrêmement, comment dire, elle attendait pas beaucoup de son situation et de ses élèves, que juste d'avoir dans le même bâtiment 3 élèves et puis le bâtiment à côté un autre 4, c'était une chose encore culturelle. Il y avait beaucoup de piano chez les gens. Et les parents, c'était important pour les enfants ou pour leur fille de prendre le cours de ballet s'ils voulaient, ou pour de musique également, pour avoir cette opportunité de prendre les cours, de pouvoir, bon, offrir ça à leurs enfants. Donc, à 12 ans, je dirais, j'ai changé de professeur et ça, c'était le premier professeur sérieux que j'avais à 12 ans.
Donc, un peu plus de discipline, disons.
Plus de discipline et c'était un vrai pianiste. Parce que le pianiste que j'avais au début, elle jouait pas très bien. Et en rétrospect, quand je vois, elle avait les ongles vernis et les ongles un petit peu longs. Donc ça, c'était les choses que là, on sait bien. Ça, c'est pas vraiment ce qu'il faut. Le vernis, on peut faire comme on veut. Mais avec les ongles longs, c'est pas vraiment un signe d'un pianiste sérieux.
Vous étiez doué. Qu'est-ce qui a été déterminant dans votre choix artistique ? Parce que lorsque vous aviez 12 ans, vous ne saviez pas vraiment ce que vous vouliez faire, si ?
Non, j'ai toujours aimé la musique. Et puis ce qui s'est passé à ce moment, dans le système d'école publique, on passe à junior high school, c'est comme première partie de lycée. au high school. Donc ça, ça passe à 13 ans normalement. On fait l'échange. Donc j'étais dans Riverdale, dans le Bronx, dans le système public. Mais au lycée, ça c'était une autre chose parce que il y avait des écoles spécialisées publiques à New York. Il existe encore pour les maths, les sciences ou pour les arts. Donc c'est les écoles qui sont extrêmement sélectives, qui sont difficiles de pouvoir entrer, mais en même temps, c'est une école publique où on peut vraiment se perfectionner dans les disciplines. Donc c'était plusieurs choses pourquoi je voulais y aller. Déjà, ça évitait de rester dans le Bronx, dans un quartier qui était moins intéressant, plus dangereux, où je devais aller normalement, parce que ça, c'était la suite de mon école à un autre. Donc, c'était d'éviter cette expérience, mais c'était aussi la possibilité d'être avec les autres jeunes comme moi qui jouaient les instruments. Donc, j'ai postulé, j'étais accepté à 13 ans dans la High School of Performing Arts, qui à l'époque était à Times Square, donc au milieu de Manhattan, et Times Square... Dans les années 70, dans une moitié, c'est pas du tout comme c'est maintenant avec le Disney Store et...
Et ça, c'était en 76, je crois. Vous aviez 13 ans.
Ça, c'était en 76.
Comment vous avez été accepté? Vous avez fait une audition? Comment ça se passe?
Oui, c'était une audition et il y avait trois départements. L'école est divisée pour la musique, donc musique classique, danse et théâtre. Donc, il y avait les auditions qui étaient, j'imagine, plusieurs épreuves. On devait jouer un programme devant un jury, je me rappelle pas très bien. Pour les claviéristes, il fallut soit jouer dans la bande ou dans l'orchestre. Donc, c'était le claviériste devait apprendre un autre instrument. Donc, j'ai choisi le violoncelle. Donc, à 13 ans, j'ai commencé le cours de violoncelle, de pouvoir jouer dans l'orchestre de l'école, qui est quelque chose qui est magnifique, hein, parce que j'aurais pas fait ça autrement. Mais j'ai eu l'expérience de pouvoir jouer au sein de l'orchestre et aussi, de pratiquer un instrument à cordes.
Le cursus donc durait 4 ans, si j'ai bien compris.
Oui, c'était 4 ans. Les journées étaient divisées. Il y avait un moitié du cours centré sur la musique et l'autre moitié était sur les sujets académiques, donc cette fameuse cours d'espagnol et l'histoire, l'anglais.
Vous m'avez raconté que vous aviez été figurant dans un film qui se passe au
cours
de cette
école. Oui, donc l'école était, je pense, pas très très connue, mais l'année quand j'ai fini l'école, c'était en 1980. Il y avait un film qui est sorti sur l'école qui s'appelle Fame par le metteur en scène Alan Parker. Voilà, qui a fait un très très grand, je sais pas, un mouvement, mais un grand événement culturel. Et à ce moment, c'était dans ma dernière année. J'étais figurant dans le film et beaucoup de mes camarades, donc de temps en temps, quand je le vois, c'est magnifique de voir tout le monde figé à le même âge, 1980, et c'était un bon souvenir. C'était pas exactement comme ça, l'école, comme c'était montré dans le film, mais ça a donné un petit goût que les gens venus de tous les backgrounds, de toutes les races différentes, les religions... Voilà, et aussi économiquement, les gens sont venus vraiment de tous les stades différents de la ville. Et beaucoup de gens devaient voyager loin. Moi, j'avais 2 heures de transport par jour dans le métro.
De Riverdale jusqu'à Midtown.
Midtown, donc ça, c'était de 13 ans à 17 ans. Ça, c'est beaucoup. Et de voyager seul.
Ils vous accompagnaient pas ou ils vous laissaient
Non, ça, c'était tout le monde était debout et en dehors de la maison. Ils devaient faire ce qu'ils devaient faire.
I can catch stars. C'était la musique de Fame, le film d'Alan Parker. Un grand merci à l'équipe qui m'a apporté son concours et son soutien pour ce grand entretien. À la prise de son, Florent Layani, au mixage, Julien Douminc, attaché de production, Flora Sternadel, et à la réalisation, Marie Groux. On se retrouve demain pour la suite de ce grand entretien avec Kenneth Weiss. Vous pouvez d'ores et déjà réécouter l'émission et retrouver toutes les références sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.